ça pouvait être intéressant de poursuivre. C'était particulièrement orienté sur la sélection, ce qui sera peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui et lors du prochain webinaire. Mais voilà, tous ces échanges de pratiques sont complémentaires et ça répond à des demandes qu'on a de nos différents réseaux de partage d'expérience. Là,
Brigitte,
je te laisse
est-ce que
enchaîner.
Sylvie, pour la Confédération paysanne et la FADER, tu souhaites dire un petit mot?
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui.
Oui.
Là, tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus.
Bon, là, c'est bon? Oui.
Ouais.
Excusez-moi. Donc, bonjour à vous tous et vous toutes et merci pour cette initiative. C'est très intéressant que nos structures, nous, à la fois syndicats de défense, notamment de l'élevage plein air et de la production, si je puis dire, plus artisanale de la filière volaille, qu'elle soit en bio ou pas en élevage pondeuse, bien sûr. Je crois que c'était important qu'on se retrouve tous autour de ce sujet qui, surtout en tant que moi, je suis responsable depuis des années des questions sanitaires en élevage de volaille. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette crise? Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de se retrouver. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces différentes crises sanitaires? Eh bien, la difficulté, le problème de l'autonomie, et rappeler surtout que le sanitaire, circule bien avec les animaux. Donc, on a eu effectivement, dans les épisodes d'influenza aviaire, des problématiques aussi liées aux couvoirs qui étaient concentrés. Donc, quand ils ont été touchés, on n'avait plus d'approvisionnement, ni en poussins, et pareil pour des poules pondeuses prêtes à pondre. Donc, des difficultés par rapport à ça. Des difficultés aussi par rapport à nos propres couvoirs qui faisaient un travail. Et qui ont été mis en danger et qui faisaient un travail comme le couvoir de la Bedouse, qui est une race ancienne de canards qui a une certaine résistance à la grippe aviaire. Eh bien, ce couvoir a quasiment failli disparaître et cette race a failli disparaître à cause des problèmes d'influenza aviaire, mais surtout de réglementation. Et enfin, parce qu'on voit bien qu'actuellement, l'approvisionnement est de plus en plus difficile, en dehors même du coût, on voit qu'il y a une vraie pression qui fait que pour les entre guillemets petits éleveurs l'approvisionnement indépendant pour son propre circuit de si on n'est pas intégré à un groupement est de plus en plus délicat et complexe avec aussi parfois beaucoup de déceptions, des problèmes sur les lots au niveau de qualité, des problèmes sur les dates, sur les choix et bien sûr la question aussi de l'ovosexage pour ceux qui voudraient travailler sur l'autonomie et l'autoproduction de leurs propres poulettes, que ce soit en achetant des poussins des marais ou pourquoi pas l'accouvage, la difficulté aussi de toute la réglementation, qu'est-ce qu'on fait des mâles dans ce cas-là, et de l'intérêt des races rustiques plutôt mixtes pour avoir l'usage des deux sexes. Voilà, j'en reste là. Donc, c'est un vaste sujet, mais qui est très, très important si on veut encore pouvoir avoir des éleveurs indépendants dans des filières œufs. Justement dans la filière œuf. Voilà. Merci à vous tous et je pense partir vers midi de la réunion puisque j'ai une autre réunion suivante.
Merci Sylvie. Alors, Édouard Janon m'a prévenu qu'il aurait un peu de retard. Est-ce que Édouard est arrivé? S'il n'est pas arrivé, est-ce que Charline, ça te dérange de nous parler de ton initiative et de ton expérience en tout premier? Alors, moi, je n'entends pas.
Allô, allô?
C'est bon, on
Ah.
t'entend.
Oui, bah avec plaisir. Par où commencer? Bon, je me suis installée en 2021 sur la ferme dans le sud des Deux-Sèvres. Et après est venue l'idée de créer un couvoir grâce à des rencontres d'éleveurs que j'ai pu faire. J'étais naisseuse avec de la Marans en pure race et au fil des formations que j'ai pu faire avec des éleveurs, ils m'ont dit ah, ben, pourquoi pas faire naître pour nous aussi, ça peut être une bonne idée. Donc c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée du couvoir. Et à la base, je voulais faire poule pondeuse et poulet de chair, mais la partie pondeuse est quand même assez particulière parce que ben, faut avoir des reproducteurs et vendre des poussins 2 fois par an alors que les poules vont pondre tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc, je suis partie que sur du poulet de chair pour l'instant. Donc là, actuellement, je propose à la vente deux souches, donc du Cousu noir et du Cousu roux en souche légère. Je suis en train d'essayer de voir pour diversifier un peu l'activité en essayant de trouver des œufs à couver à côté pour essayer de diversifier la proposition aux éleveurs. Donc là, j'ai mes reproducteurs qui sont en plein air. Qui sont pas en bio, tout simplement à cause du coût. Et là, l'objectif, c'est de passer à 3 000 poussins semaine pour pouvoir le proposer aux éleveurs qui veulent être dans cette démarche d'approvisionnement en poussins local. Donc voilà pour un peu la partie poussins. Et je propose aussi à la vente des poules prêtes à pondre en bio pour essayer de répondre à la demande qui est apparemment de plus en plus compliquée sur ce côté-là. Donc voilà un peu l'activité.
Ok, merci beaucoup Charline. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient faire comme toi, quelles ont été les différentes étapes pour arriver jusque-là? Est-ce que tu as eu des soucis particuliers ou des choses qui t'ont semblé plus faciles que ce que tu avais anticipé?
La plus grande difficulté, c'est trouver, enfin, s'approvisionner en poulet en parentaux. Parce que du coup, il y a personne qui, enfin, pour continuer à travailler avec des souches avec qui travaillent les éleveurs, donc des Cousu roux, des Cousu noirs, par exemple. Ça a été la partie la plus compliquée. Donc, j'ai réussi à trouver des reproducteurs via chez Hendrix. Mais ça a un coût. Et ça, c'est a été la plus grande difficulté pour vraiment trouver des souches et puis bah, investir dans ces lots-là. Après, c'est la partie plutôt technique sur l'élevage des reproducteurs. Parce qu'en fait, la partie couvoir, entre guillemets, c'est simple. Voilà, c'est des paramètres. Une fois qu'on les connaît, on arrive à les travailler et on peut s'améliorer de plus en plus. La partie reproducteur, c'est ce qui, personnellement, je trouve le plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres, aussi bien en termes de taux de ponte que ben, le taux de fécondité, le taux d'éclosion. Dès qu'il y a un passage viral, ben, on a une chute, et ce qui engendre une chute de ponte, mais également des chutes ben, d'éclosion, tout simplement. Donc là, il faut anticiper ça et c'est franchement pas évident. Et après, tout ce qui est côté administratif, c'est un peu le flou. Je demandais à DDT savoir s'il y avait des choses en particulier, mais bon, ils n'étaient pas trop au courant. Donc en fait, j'ai un peu avancé le projet en faisant ce que je pensais être le mieux, tout en demandant conseil à minima pour, par exemple, les plans du couvoir, pour avoir les normes sanitaires. Mais après, en soi, la difficulté, ouais, ça a été surtout la partie reproducteur, quoi. Donc voilà.
Ok, merci. Alors, commencer à avoir quelques questions. Est-ce que les femelles sont valorisées en chair?
Ouais, du coup, alors moi, je ne fais pas de sexage. On appelle ça du tout venant. Donc, tous les poussins qui naissent sur la ferme sont valorisés. Donc, je fais tout sur réservation et après, j'en fais naître plus pour être sûr que les éleveurs aient ce qu'il faut. Après, je garde les poussins qui sont en excès et que j'élève pour en faire des poulets de chair et que je vends en vente directe après derrière. Mais il n'y a pas de sexage.
Okay, merci. Et quel aurait été le surcoût des poussins en bio?
Le coût de l'alimentation pour les reproducteurs. Sachant que là actuellement j'ai 750 poules pondeuses reproductrices et 120 coqs. Rien qu'avec l'alimentation, du coup, je suis déjà à 1 200 euros par mois pour les reproducteurs. Et en fait, ça aurait été plus du double pour le bio. Et ce qui aurait fait un poussin à quasiment 2 euros. Et en fait, personne n'est. Enfin, déjà que je suis chère pour le marché, ça aurait été compliqué, enfin encore plus compliqué pour trouver des éleveurs intéressés, sachant qu'il y a toujours la réglementation en France qui autorise à acheter des poussins non bio avant leurs 3 jours. Et c'était aussi pour la partie aussi technique. Comme pour l'instant, j'ai des reproducteurs qui sont sélectionnés pour produire, clairement. Leur résistance n'est pas forcément optimale. Donc, c'est une sorte de garantie aussi d'avoir des traitements sous la main si jamais il y a quoi que ce soit, quoi.
Si, alors, quelqu'un demande où est-ce que tu es situé et comment te commander ou peut-être te précommander pour l'avenir des poulettes prêtes à pondre.
Ben je commande. Alors, soit faut m'appeler. Donc, moi, je suis dans le sud des Deux-Sèvres. Je suis à 20 minutes au sud de Niort. Je suis à 30 minutes de la Charente et de la Charente-Maritime. Après, pour commander des poulettes, sachant que je suis en train de faire des précommandes là, pour pouvoir fournir un lot au mois d'octobre, faut pas hésiter à m'envoyer un mail ou m'appeler pour qu'on puisse échanger sur ce sujet-là.
Okay, merci. Quelqu'un par rapport au prix là qui nous dit que Hendrix lui vend des poussins non bio noirs rang à plus de 2,50 le poussin. Ce qui veut dire que tu ne serais pas si cher que ça.
Ouais, bah pour de la poule pondeuse, les tarifs, oui, c'est à peu près ça. Pour le poussin d'un jour, moi je les vends à 1,10 € vaccinés Marek, Gumboro, coccidiose et bronchite infectieuse, sachant que j'ai le choix, enfin je peux choisir si je veux vacciner ou pas les poussins. En gros, ça fait du poussin à 0,95, enfin à 95 centimes. Et pour de la pondeuse, effectivement, j'ai acheté des noirants à ce prix-là, ouais. Mais après, chez Hendrix, moi j'ai acheté des reproducteurs et là, on est sur tout un autre tarif. On est à plus de 7 € la femelle à un jour et 14 € le coq à un jour aussi. Donc voilà le coût un peu des reproducteurs.
Ok, merci. Alors, quelqu'un demande quelle est la dimension du bâtiment en couvoir, et j'ajoute aussi une question supplémentaire à ça. Est-ce que ce soit pour le bâtiment en couvoir ou pour l'élevage de reproducteurs, t'as des réglementations spéciales sur la biosécurité, la claustration et tout ça? Mais d'abord, peut-être la dimension du bâtiment en couvoir.
Alors, le bâtiment couvert, il fait environ 100 mètres carrés. Donc là, j'ai suivi les normes biosécurité dans le sens où c'est une marche en avant. Donc voilà, le principe que même pour un local de transformation, donc avec un sas, une zone de lavage de main, de changement, et après la partie incubation, la partie éclosion et triage des poussins, vaccination et livraison. Donc voilà la partie couvoir. La seule réglementation qui m'imposait, c'était ça, c'était la mise en marche en avant. Et pour la partie reproducteur, c'est exactement comme des poules prêtes à pondre, enfin des poules pondeuses, avec sas sanitaire à l'entrée et sas avant chaque bâtiment. Donc voilà, c'est. On a fait le sas sanitaire pour l'entrée du site et on a fait une espèce de pseudo-sas dans les cabanes où il y a les reproducteurs. Où en fait, c'est la partie, c'est le pondoir qui fait la limite entre notre accès et l'accès des reproducteurs. Il n'y a pas de lavage de main ni quoi que ce soit, mais ça fait un pseudo-sas, voilà, un pseudo-tampon pour accéder aux reproducteurs.
Merci. Quelqu'un demande quelle race en poule pondeuse?
Alors, je propose du coup de la rousse classique, de la noirant, de la barrée, style un peu coucou de reine, de l'azur et de l'olive. J'ai fait en fonction des éleveurs qui m'ont commandé, savoir ce que je pouvais fournir. Donc voilà, pour l'instant, je fais ces cinq souches-là.
Okay. Alors, une demande de confirmation. Est-ce que tu es bien à 3 000 poussins semaine? Et pour le volume que tu fais, tu es toute seule ou est-ce que tu travailles avec des collaborateurs ou des collaboratrices?
Alors, actuellement, je ne suis pas encore à 3 000 poussins semaine. C'est vraiment l'objectif de roulement de croisière. Là, c'est très variant parce que comme je viens enfin, de lancer l'activité, puis après, j'ai eu des soucis de machine, parce que j'ai une machine que je ne vous conseillerais pas. Et en fait, voilà, j'ai eu des soucis qui font que j'ai tout décalé, l'approvisionnement et puis la commercialisation qui s'en est découlée. Donc là, j'oscille entre 3 000 poussins par mois. Donc là, l'objectif, bah, c'est que je fasse beaucoup plus par semaine. Et voilà, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions.
Ouais, en gros, quand tu arriveras à 3 000 semaines, tu resteras toute seule?
Non, alors là, actuellement, je suis avec mon père. Parce que du coup, à côté de ça, on a aussi des brebis et des chèvres. Donc voilà, on s'ennuie pas, mais non, il m'aide du coup sur la partie surtout élevage. La partie couvois, pour l'instant, je suis plutôt toute seule. Là, la semaine dernière, par exemple, je viens de faire une livraison de 3000 poussins et toute seule, c'est vraiment compliqué. Entre le trier les poussins, les vacciner, les préparer à la livraison, j'ai commencé à 3 h du matin pour finir à 19 h. Donc voilà, ça va pas être une durée, enfin, un rythme qu'il va falloir continuer sur ça. Donc il va falloir que je trouve à améliorer le. Et à mieux m'organiser et puis à trouver quelqu'un sûrement pour la partie couvert, comment ça va vraiment bien tourner, quoi.
Merci. Une question sur l'étape repro. Comment est-ce que tu gères la diversité génétique chez les reproducteurs et comment est-ce que tu renouvelles ton stock de reproducteurs?
Et ben là, c'est un peu la partie la bête noire. Tout simplement, pour l'instant, je fais aucune sélection. Je rachète mes reproducteurs chaque année. Ben, chez Hendrix, justement. Mais là, je suis en train de voir pour diminuer mes reproducteurs. Parce qu'en fait, là, j'ai tellement de trous dans mes commandes de poussins que ben, je nourris des reproducteurs qui pondent des œufs, mais que je ne peux pas valoriser derrière. Donc là, c'est une perte sèche. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de diminuer en reproducteur et trouver des œufs à couver pour l'instant, pour essayer de trouver d'abord la clientèle. Et une fois que j'aurai la clientèle et que j'aurai vraiment les éleveurs qui suivent le projet et qui sont vraiment intéressés pour continuer avec le couvert paysan, ça serait de repartir sur des reproducteurs pour être. Bah déjà avoir aussi cet argument d'avoir des reproducteurs en extérieur et essayer de maîtriser aussi la partie sélection. Mais là, je pense qu'il va falloir que je m'associe avec des gens qui ont cette expérience-là parce que je n'ai pas, j'ai pas les capacités en termes de bâtiment et ni les connaissances techniques pour ça. Donc là, pour l'instant, je rachète chaque année mes lots chez Hendrix.
Si, une question sur la partie accouvage. Là, tout à l'heure, tu parlais d'une machine que tu nous déconseilles. Est-ce que tu pourrais nous dire laquelle? Et c'est quoi la taille de tes incubateurs?
Alors, c'est la France, la marque France Avicole. En fait, la difficulté dans le projet, c'est que je suis trop petite pour les industriels, je suis trop grosse pour les particuliers. Donc, trouver une machine qui correspondait à la dimension que je voulais, donc partir sur 3000 poussins par semaine, j'avais trouvé que cette marque-là. À la base, je voulais travailler avec Peter Sim, sauf que ben, Peter Sim, c'est vraiment la marque ultime en accouvage. Mais leur plus petite machine, c'est des 16 000 œufs. Et c'était le budget des trois machines que j'ai actuellement. Donc j'ai vite laissé tomber et je suis partie sur ce monsieur-là, qui est, on va dire, un escroc, mais enfin, qui vend des machines. Parce que je pense qu'il a voulu s'amuser à essayer à faire des machines et puis voilà, il s'est lancé là-dedans, puis il en vend principalement en Afrique. Donc j'ai eu ça. Et en fait, j'ai deux machines, deux incubateurs de 8 400 œufs et un éclosoir de 4 200. En fait, j'ai choisi de partir sur deux machines de 8 000 pour pouvoir faire un roulement. Et comme ça, toutes les 3 semaines, je peux désinfecter les incubateurs. Et l'éclosoir, bah, chaque semaine, je le désinfecte après chaque éclosion. Donc voilà.
Si, il y a alors Manu de la poule aux fruits d'or, je suis désolé, j'ai pas compris la question. Je veux bien que tu la poses toi-même. Si tu peux ouvrir ton micro.
Oui, bonjour. Excusez-moi, en fait, j'avais pas fini, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, j'ai pas pu finir ma question. En fait, c'est est-ce que Hendrix, ils autorisent, si tu achètes des reproducteurs à un moment donné, est-ce qu'ils autorisent que tu gardes les œufs que tu proposes après pour que ce soit des reproducteurs aussi, ou est-ce que c'est le fait que ce soit une race sélectionnée, t'as pas le droit, toi, de les reproduire après derrière? Je sais pas
Alors,
si.
j'ai aucune obligation de quoi que ce soit. C'est après, je me suis plutôt renseignée sur des éleveurs qui ont déjà essayé de faire de reproduire ces souches-là. Et apparemment, ça donne rien de bon. Apparemment, ça donne un peu des tares, des animaux qui naissent cou nu, pas cou nu. Enfin, ça fait un peu de la loterie. Donc, c'est pour ça que je ne m'y suis pas essayée à faire de la reproduction. Sachant que les reproducteurs que j'ai, la femelle, c'est de la poule rousse classique qui a été sélectionnée pour pouvoir diffuser utiliser la génétique du coq. Et en fait, c'est les coqs qui sont coulus et qui donnent la génétique au poussin. Donc, en fait, la poule, elle est juste là pour pondre suffisamment et diffuser la génétique du coq. Donc voilà, moi, je ne m'y suis pas essayé à la faire reproduire pour en refaire des reproducteurs. Mais voilà, on m'a déconseillé de le faire. Après, si jamais quelqu'un essaye, je suis preneuse des informations.
Une question connexe, je poserai la tienne après, Carole, mais celle-là a un peu à voir. Une question d'iPhone qui te demande, est-ce que tu penses que tu pourrais travailler sans reproducteur acheté chez Hendrix en utilisant par exemple de simples poulets de chair achetés à un prix poussin de chair?
Ben c'est un peu le même sujet, c'est que ça va faire exactement des poussins qui vont être un peu entre guillemets n'importe quoi, qui vont faire des counus, des pas counus. Et en termes de morphologie, je ne sais pas si cela pourra correspondre à ce que veulent réellement les éleveurs derrière, quoi. Mais après, c'est à essayer, hein, mais je vous avoue que je n'ai pas eu encore le temps d'essayer.
Merci. C'est l'intérêt de cette série de webinaires, c'est aussi de partager différentes expériences. Il y a Carole qui est dans le sud-est. Du coup, elle te demande, est-ce que tu as pensé à vendre des œufs à couver pour les paysans qui sont plus loin des Deux-Sèvres?
Je peux le faire. J'ai jamais eu la demande pour l'instant, mais ça peut être quelque chose d'envisageable, ouais.
Ok, alors, toujours l'iPhone qui demande si quelqu'un qui a fait cette expérience avec des souches pondeuses, c'est justement, je vous propose qu'on se pose la question à la fin de notre série, là, dans la discussion globale. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront un peu parler, puis qui accepteront de témoigner dans un seconde rencontre. Si on a épuisé les questions pour l'instant, ce sera toujours possible de reprendre des questions pour Charline s'il y a des choses qui vous reviennent en tête. Je propose qu'on passe la parole, je vois qu'il est arrivé, à Édouard Jeannot de Béchane. Est-ce que Edouard, vous pourriez allumer votre micro?
Oui, bonjour à tous.
Super.
Je m'excuse vraiment du retard.
Il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, Charline vient de nous partager son expérience et on vous propose de partager l'expérience du centre Béchane sur la
Oui.
sélection, la reproduction et l'accouvage.
Oui. Alors, je me suis mis en partage vidéo en sachant qu'on a une connexion Internet qui est un peu instable. Donc, si vraiment ça coupe ou quoi, vous me le dites. Et puis, comment, j'éteindrai ma vidéo. Mais voilà, normalement, ça devrait marcher. J'ai une petite présentation si ça, comment, si ça vous dit. Et puis après, je peux faire des questions-réponses. Comment ça vous convient? C'était une demi-heure, hein, si je ne dis
Ouais,
pas
c'est
de
ça. Donc,
bêtises.
vous pouvez partager votre écran là où il faut que je
Ouais.
note. Ouais,
Non, non, c'est bon,
c'est
normalement.
bon. Eh ben, écoutez, allez-y. Puis moi, je prendrai les questions dans le chat, comme ça, on vient de faire là, et je vous les adresserai.
Alors, là, dites-moi ce que
Ouais,
Vous
suffit que
voyez.
vous passiez en mode présentation et je pense que ça va
Ouais.
être bon.
Alors, normalement, je suis en train de le partager. C'est pour ça que vous me dites si ça. Alors, là, vous voyez rien toujours?
Là, on voit votre écran avec la diapo centre de sélection Béchane et puis la liste des diapos à gauche.
Ah, ok. Bon, alors, attendez, je vais mettre ça. Voilà, oui, ok. Bon, bah, c'est que c'est bon, je vais mettre en présentation comme ça vous voyez tout normalement.
Et voilà, c'est bon, merci.
Voilà, d'accord. Bah, déjà, je vous remercie de me laisser l'occasion de présenter le centre et voilà, tout le travail que l'on fait. Alors nous, le centre, on est donc, bah, une structure différente de ce qui a été présenté, puisque nous, on est voilà, une société privée, tout en sachant que c'est une entreprise qui aujourd'hui appartient aux éleveurs de volailles de Bresse, aux chambres d'agriculture de l'Ain et de Saône-et-Loire, bah, en partie aussi de manière plus marginale, la chambre de commerce Groupama Litavie, la coopérative des éleveurs de volailles de Bresse. C'est vraiment une entreprise qui est de filière. Voilà, donc elle a été créée en 1956, c'était dans le cadre de la reconnaissance en AOC de la volaille de Bresse à cette époque pour homogénéiser la sélection génétique de la race gauloise blanche. Donc nous, nos métiers, ils sont déjà principalement sur la volaille de Bresse, hein, puisqu'on fait la sélection génétique de la volaille de Bresse et l'accouvage. Donc on produit tous les poussins pour les éleveurs de volaille de Bresse. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, il y a eu à peu près 700 000 poussins mis en place sur la volaille de Bresse. On est un petit peu moins. Donc, c'est des chiffres qui paraissent très élevés d'un côté. D'un autre côté, quand on se compare aux gros sélectionneurs, c'est ce qu'ils font dans la semaine, quoi. Donc, on est à un niveau, à dire, intermédiaire. On est un tout petit sélectionneur professionnel, si vous voulez, quoi. Et donc, on fait la sélection, la multiplication de l'accouvage par rapport à la volaille de Bresse. Et on fait, donc, dans la deuxième partie de notre activité, de la conservation et de la sélection génétique de races anciennes de poules. Donc, je vais vous expliquer comment on fait cette sélection et cette conservation. Mais du coup, aujourd'hui, notre originalité, c'est d'être uniquement sur des races anciennes de poules françaises. Alors, françaises pour le moment, sachant que peut-être que demain, on aura d'autres races qui ne sont pas françaises. Mais voilà, en faisant de la conservation et de la sélection en races pures. Donc aujourd'hui, on ne produit que des races pures sur des races anciennes françaises. Donc on en a 16 races différentes aujourd'hui et on est en développement du nombre de races qu'on va conserver, sélectionner sur le centre. Donc voilà, on a la Meusienne qui vient d'arriver. Demain, je vais justement récupérer des œufs de poules marrants avec le Marans Club de France qu'on va sélectionner, des Ardennaises, de la poule lyonnaise. Donc on va étendre notre gamme de races anciennes de poules. Donc nous, le centre, on a aujourd'hui beaucoup de bâtiments. Donc notre terrain, on est sur 22 hectares qui appartiennent à la Chambre d'agriculture de l'Ain. Et donc en fait, aujourd'hui, vous voyez sur le plan, on a beaucoup de bâtiments, en sachant qu'il y a des bâtiments qui datent encore des années 60 et quelques bâtiments récents, ceux qui sont en rouge. Mais on a beaucoup de bâtiments qui ne sont pas forcément très grands, mais par le fait qu'on a beaucoup de races. Donc comme on a beaucoup de races, forcément, il faut, avec le cycle de production, nous, pour la multiplication ou la sélection, on ne peut pas élever toutes les races ensemble tout le temps par rapport à la rotation. Donc on a besoin, on va dire, de beaucoup de petites poussinières. Et donc nous, on est organisé en différents pôles sur le centre. Hein. Donc, vous voyez en bas de l'image, c'est la partie bureau-couvoir. Ensuite, vous avez un pôle multiplication. Donc, c'est là où on a nos reproducteurs pour vraiment la produire, les œufs qui font les poussins pour les éleveurs de volailles de Bresse. Donc, ça, c'est ciblé vraiment pour la Bresse. Ensuite, on a le pôle poussinière qui élève les poussins qui iront soit en sélection, renouveler notre troupeau de sélection, soit renouveler notre troupeau de multiplication. Et le troisième pôle, donc ça c'est le pôle sélection, c'est là vraiment où on a nos troupeaux pédigrés de toutes les races qui sont sur le centre, donc avec tous les animaux qui pour le coup sont suivis individuellement. Donc voilà notre organisation générale. Ensuite, je fais toujours un point sur la biosécurité parce qu'on est particulièrement suivi par la DDPP et on a un enjeu sanitaire très important puisque la filière volaille de Bresse dépend des poussins qu'on va produire et aussi par le fait qu'on a toute la génétique de toutes les races qui sont conservées sur le centre qui est dans le site. Et donc, il ne s'agit vraiment pas de contaminer tel ou tel bâtiment et de mettre à mal toute la génétique, tout le travail génétique qui a été fait sur l'ensemble des races. Donc, même si on sait qu'on a une route qui traverse, qui est un risque important sur le site, chaque pôle est isolé, clôturé, on désinfecte nos véhicules quand ils rentrent sur le centre, on prend des douches, nous, et on change de vêtements dès qu'on rentre dans un bâtiment. Des vêtements qui ne sortent jamais du centre, qui sont toujours lavés en interne. Et voilà, du coup, on essaye évidemment de travailler au maximum par demi-journée sur les bâtiment pour limiter le nombre de douches, quoi. Donc voilà, on a vraiment un suivi strict sanitaire. Et puis bah, dans chaque bâtiment ou chaque pôle, selon, on a des analyses toutes les 3 semaines de tout ce qui est salmonelle, mycoplasme ou autre, bah, voilà, que ce soit sur les bâtiments ou sur le couvoir, quoi. Donc comme on a un certain nombre de bâtiments et que chaque bâtiment est visité au moins une fois en visite surprise par la DDPP, bah, on a au moins 15 à 20 visites par an de la DDPP, quoi. Donc on doit être plutôt intransigeant à ce niveau-là. Donc après, au niveau des races, bon, je vous ai mis un petit, comment, des petites photos des différentes races que l'on a. Mais on a notamment la Gauloise blanche, qui est notre race phare, forcément, puisque c'est celle qui sert à faire la volaille de Bresse. On a le poulet bourbonnais, qu'on voit tout en haut à gauche, au fond, qui est sélectionné pour faire le poulet bourbonnais qui est aujourd'hui en AOC. On a la Gauloise grise, la Gauloise noire, la Barbezieux, la Charolaise, la Coucou de Rennes, la Cougnue du Forêt, la Faverolles, la Gasconne, la Gâtinaise, la Gournay et la Houdan, la Noire du Berry, la Poule d'Alsace, et on a une race pondeuse qui est, on va dire, qui a été sélectionnée, on va dire, créée sur le centre, qui est une race pondeuse rustique que l'on appelle Sukona, qui est une poule rousse, mais avec un côté rusticité et on va dire, un potentiel viande aussi qui est important. Donc voilà, race pondeuse rustique. Et donc, comme je vous disais, on est en train de faire entrer des nouvelles races, donc la poule meusienne, la poule marron, la lyonnaise, qui a plus un côté ornement, la lyonnaise, l'ardennaise sans queue. Voilà pour les projets pour cette année, en sachant que voilà, l'objectif c'est de continuer à conserver et sélectionner un maximum de races anciennes de poules. Donc après, nous, notre conservation, elle se fait sur la base d'un fonctionnement, donc des troupeaux fermés d'un minimum de 130 poules. Donc un troupeau fermé, c'est-à-dire que une fois que les animaux sont rentrés sur le centre, on fonctionne qu'en circuit fermé. On ne fait pas rentrer de nouveaux animaux pour des questions sanitaires. Là, je vous donne l'exemple de la poule meusienne ou de la poule marrant qu'on va faire rentrer. Donc la poule marrant, c'est avec le Marrant's Club, donc des éleveurs amateurs ou collectionneurs de cette race. Donc on a fait chez 5 éleveurs principaux du club des analyses sanitaires chez toutes les poules qui vont nous produire des œufs qu'on va récupérer. Et donc on a écarté des éleveurs qui n'étaient qui correspondaient pas qui avaient des pathogènes qu'on ne pouvait pas récupérer. Et donc demain je vais récupérer des œufs des animaux et des éleveurs qui ont été sélectionnés, que l'on va incuber hors du centre de Béchane chez un éleveur que l'on suit nous et sur lequel on met notre plan prophylaxie, mais qui est à l'extérieur du centre. Et donc, en fait, on met en place sur ces animaux-là notre plan de prophylaxie, et c'est une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte où on produit les œufs, dont on sait du coup qu'ils sont sanitairement irréprochables, c'est ces œufs-là de cette première génération qui vont rentrer sur le centre et qui vont ensuite intégrer notre circuit au niveau nos circuits de sélection et de conservation. Donc voilà, on a des troupeaux qui sont entre 130 et 200 poules selon les races, hein, donc selon la bande, en sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un certain nombre de races, il y a 9 races qui appartiennent ou ont été récupérées par le centre de section historiquement, données par des clubs de races ou des éleveurs qui arrêtaient ou qui ne savaient plus quoi faire de leur race. Et il y a d'autres races qui sont conservées en prestation d'associations ou de clubs de races locales, enfin voilà, qui peuvent se trouver partout en France. Ça va de la poule d'Alsace, du Marrant's Club de France, de l'association poule de Barbezieux. Enfin voilà, c'est assez large. Donc, dans la mesure du possible, on travaille nous avec les associations ou les clubs de races qui ont envie. On essaie de développer vraiment un réseau par rapport à tout ça. Et voilà, dans certains cas, on récupère des races pour pas laisser tomber le travail génétique qui a été fait jusque-là. Donc l'objectif premier, quand dans la conservation de race, c'est de maîtriser la conformité et de respecter le standard, la pureté de la race. En sachant que quand on récupère des animaux qui sont issus d'éleveurs, bien souvent la pureté de la race est théorique. Il y a souvent des gènes qui traînent un peu partout d'autres races qu'il faut épurer. Donc voilà, premier objectif, c'est quand même gérer la consanguinité de la race. Ensuite, dans la mesure du possible et selon les effectifs, c'est faire évoluer les caractéristiques et les besoins de la race. Enfin, la race selon les besoins, alors de manière relative, parce que enfin, la marge de manœuvre ensuite pour faire évoluer est peut-être plus limitée. Syndicat des sélectionneurs font tout notre traitement de données en fait par rapport à toute la collecte de données qu'on a sur tous les animaux qui sont suivis, bagués individuellement et suivis individuellement tout au long de leur cycle chez nous. C'est-à-dire que quand une poule de pédigré pond un œuf, quand on collecte les œufs, on enregistre que cette poule a pondu un œuf. Donc on a des suivis individuels d'animaux très précis sur leur ponte, toute leur performance qui sont enregistrés dans la base de données et ensuite traités par le CISAF et qui permet derrière de nous faire de la sélection et la conservation en faisant de la reproduction en insémination artificielle pour renouveler notre troupeau pédigré. Donc voilà, du coup, c'est un travail de conservation et un travail très lourd en temps, puisque voilà, il s'agit de passer les animaux individuellement pour vérifier qu'ils respectent le standard, de faire la collecte de données. Et du suivi, etc. Donc c'est vraiment un travail assez lourd, mais qui permet d'arriver à gérer de manière précise les niveaux de consanguinité des animaux. Donc là, je vous ai mis un exemple de la poule gasconne qui a été récupérée sur le centre en 2010, donc qui était basée à la base sur trois poules et trois coqs, enfin les œufs issus de trois poules et trois coqs, donc avec une diversité génétique très faible. Et donc, vous voyez que dans le graphique de la consanguinité que vous voyez, la zone rouge, c'est forcément la zone où il ne faut pas être, hein, où on est trop consanguin. La zone orange-crème, c'est qu'on s'améliore. Et la zone blanche, c'est la zone de confort, on va dire. Donc, forcément, en partant au début avec cette diversité génétique très limitée, eh ben, on est forcément dans la zone rouge. Et vous voyez que depuis 5 à 6 ans, on est sorti de cette zone rouge pour être dans la zone jaune. Donc, en partant d'une diversité génétique très très faible, on arrive à stabiliser les choses petit à petit. Ça prend du temps, mais ça porte ses fruits. Et aujourd'hui, voilà, la poule gasconne, avec les éleveurs de poules gasconnes, il y a un petit collectif qui s'est créé, qui a créé la poule noire de Bigorre, et qui est aujourd'hui, enfin, alors c'est 20 000, c'est plutôt 15 000 volailles par an avec leur groupe d'éleveurs. Là, la poule lyonnaise va récupérer. Il n'y a plus qu'un éleveur aujourd'hui que j'ai recensé en France qui a 8 poules. Donc, on va récupérer le maximum de la diversité génétique de cette poule pour essayer de faire le même travail que ça. Donc, une fois qu'on a ça, donc là, vous avez un schéma qui montre le cycle en fait de nos animaux pédigrés sur une année. Donc, qui va de l'éclosion des pesées, des tris où, à 10 semaines où on enlève les animaux qui ont des défauts, notamment au niveau du phénotype. On les met en cage parce que voilà, nous aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on est obligé de faire du suivi des animaux en cage. Quand on veut faire du suivi individuel, on n'a pas les moyens d'avoir des bâtiments connectés, des cages connectées, etc. Donc voilà, la seule solution qu'on a, c'est d'avoir pour les troupeaux pédigrés uniquement, donc une fois qu'ils sont adultes, un suivi des animaux en cage. Contrôle de ponte, et ensuite on renouvelle, on fait de l'insémination pédigrée pour renouveler le troupeau. Et vous voyez que sur les performances, malgré tout, avec la taille de ces troupeaux, on arrive à augmenter légèrement, enfin, tout de même, hein, voilà, je crois que c'était la Gascogne aussi, hein, le poids de l'œuf qui a gagné un peu plus d'un gramme en 10 ans, quoi. Donc c'est marginal, mais on arrive quand même à faire évoluer, ou voilà. des troupeaux. Donc, ce que je viens de dire, ça rappelle un peu ce que je viens de dire, hein, mais donc chaque animal est suivi individuellement, la ponte est suivie, la semence des coqs est analysée au microscope, enfin voilà, tous les ans pour écarter ceux qui sont stériles. Voilà, insémination artificielle pour garantir le suivi individuel des animaux et la consanguinité. Donc, voilà, et donc nous, au-delà de cette conservation, on est engagé dans la conservation puisqu'il y a un côté urgent et important de conserver les races anciennes de poules, puisque sur les 47 races qui ont été conservées par l'INRA, il y en a 46 qui sont en risque de disparition. La seule qui ne l'est pas, c'est la Gauloise blanche grâce à la volaille de Bresse. Il reste. Pour la poule ardennaise, par exemple, j'étais chercher des éleveurs en Belgique. Enfin, je suis en train de trouver des éleveurs en Belgique pour récupérer des œufs, engager cette démarche-là. Mais voilà, on va récupérer peut-être entre 50 et 100 œufs et 100 œufs pour engager cette phase de conservation. Donc, nous, on est voilà, vraiment là-dedans. Et du coup, voilà, on est capable de produire, d'incuber et produire des poussins pour la quasi-totalité de ces races, en sachant que voilà, par exemple, la poule bourbonnaise ou la poule gasconne qui ont des démarches ou de reconnaissance d'AOC ou d'AOP ou particulières, voilà, ça c'est c'est que les personnes ou les éleveurs qui font partie du groupe d'éleveurs qui ont le droit d'en avoir. Après tout le reste, les poules les poussins sont ouverts à la vente et on fait voilà régulièrement. Tous les ans, quand on a du tri, on met en vente les animaux de tri ou de réforme qui sont issus du centre. Donc voilà un peu toute notre activité. Donc vous entendez parler la fin de la présentation sur le prix du poussin. Donc nous, on est un peu plus cher que ça, même par rapport à ce qui a été présenté, pour la simple et bonne raison qu'on est aussi sur des races rustiques anciennes. C'est-à-dire qu'avec des performances d'élevage, de production, de pontes qui sont, on va dire, qui sont moins élevées que les races sélectionnées hybrides qui viennent de chez Hendrix, ou comme c'était dit, voilà, on met un coq d'une race sur une poule récessive pour avoir les caractéristiques phénotypiques. Donc nous, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des races pures, donc avec des niveaux de productivité qui sont moins importants, quoi. Donc voilà un peu la présentation. J'espère que j'ai pas été trop long, mais voilà, je pense que rapidement sur toute notre activité, ce qu'on fait.
Et merci beaucoup. J'ai déjà quelques questions. Une première question, il semble à un éleveur ou à une éleveuse que sur la volaille de Bresse, certains éleveurs qui l'avaient préservée n'ont plus le droit de l'appeler volaille de Bresse. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à propos de cette question d'appellation?
Alors, j'essaie juste voilà, de retrouver mon écran. Donc en fait, sur aujourd'hui, la volaille de Bresse est une AOP. Donc voilà, protégée forcément par un cahier des charges et par l'INAO. Donc aujourd'hui, l'appellation volaille de Bresse, comme toutes les AOP, ne peut être comment appeler ou déterminer que dans les conditions qui concernent l'AOP. C'est-à-dire qu'un éleveur qui fait de la Gauloise blanche, donc la Gauloise blanche, c'est la poule qui sert à faire la volaille de Bresse, qui fait de la Gauloise blanche peut appeler ses poules Gauloise blanche, mais ne peuvent pas l'appeler volaille de Bresse puisque l'appellation concerne un cahier des charges et une méthode de production, une origine géographique, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas qui a été posée.
Ok, eh ben, vous pourrez nous dire dans le chat si ça répond ou pas à la question. Ouais, en fait, c'est une question par rapport à la privatisation du nom Bresse, j'imagine, au profit du collectif des éleveurs et des éleveuses de volailles de Bresse. C'est ça, hein, je pense. Mais je pense
Oui,
que ça dépasse un peu le.
bah,
Mais allez-y.
et alors c'est le en fait la race c'est la Gauloise blanche. C'est pas la enfin, la race ne s'appelle pas Bresse, elle s'appelle Gauloise blanche. C'est l'appellation Bresse par rapport à la géographie qui a été protégée dans le cadre de l'AOP, comme toutes les démarches AOP dans tous les cas.
Merci pour votre réponse. Il y a quelques interrogations, questions, demandes d'éclairage sur les critères de sélection que vous utilisez, notamment l'équilibre entre les critères de production, l'adaptation à l'évolution climatique. Voilà. Et puis évidemment sur la fra... enfin, comment dire, la résistance des animaux. On dit que la pureté de la race aboutit souvent à des animaux fragiles. Comment est-ce que vous gérez ces équilibres-là?
Alors, sur la sélection, déjà, la première sélection, nous, c'est la gestion de la consanguinité. Ça, c'est comment? Ça, c'est le premier impératif si on veut pérenniser ces races-là. Ensuite, pour les races qui ne nous appartiennent pas ou pour lesquelles on est en prestation, c'est l'association Club de Race qui nous donne ses orientations génétiques. Donc, tous les ans, on fait un point et eux nous disent on veut orienter la section dans tel ou tel sens. Donc, ça, c'est eux qui le décident. Ensuite, on est sur des races anciennes, donc des races rustiques. La plupart des races qu'on a chez nous, alors plus ou moins selon les races, mais voilà, c'est des races qui peuvent voler, se percher, qui vont vraiment explorer le parcours, vraiment dans un besoin dans un besoin de se déplacer, dans un besoin de gratter, etc. C'est vraiment un besoin pour ces animaux. Et voilà, selon certaines races, pour par exemple la poule d'Alsace, c'est une poule vraiment très vigoureuse qui vole, et voilà, il faut vraiment, c'est des animaux très rustiques. Donc, sur leur adaptation, aujourd'hui, l'adaptation au changement est une vraie question qui se pose, notamment pour la Bresse, hein, mais qui n'a pas une solution uniquement génétique. Voilà, si on parle des périodes de plus chaudes, plus sèches, etc., il y a beaucoup de solutions qui aussi concernent dans l'aménagement des parcours, avoir de l'ombre, garder des points frais pour les animaux, des points où ils peuvent gratter, ils peuvent se nourrir aussi. Il y a la question de la luminosité aussi, des longueurs d'onde, de la lumière extérieure. Donc tout ça, c'est, enfin voilà, l'adaptation est vraiment multifactorielle.
Et on sait...
Pardon? Il y a une question ou
C'est juste un
c'est...
micro non coupé,
Ah
continuez.
d'accord. Donc voilà, nous, sur la Bresse, on travaille là-dessus. Et après, dire que les animaux sont moins résistants. Alors, c'est sûr que l'hybridation a un côté donné de la vigueur globalement aux animaux, ça on le sait. Après, nous, étant donné que les animaux ont la consanguinité qui est bien gérée, nous, on n'a pas de retour des éleveurs par rapport à une fragilité particulière. On a plutôt des retours qui sont de dire c'est des animaux qui sont plutôt vifs et vigoureux, quoi. Voilà, des fois, certains pour rentrer le soir en bâtiment, même pour la volaille de Bresse, hein, certains, voilà, il y en a qui dorment dans les arbres parce qu'elles ne veulent pas rentrer non plus, quoi.
Et merci. Une question, vous avez parlé du prix du poussin, mais quel est le coût moyen d'un poussin qui sort de chez vous?
Alors aujourd'hui, nous, sur les comment on est sur une sur la plus enfin, sur la plupart des races, aux alentours de 3,30 € le poussin. Donc qui est voilà, vacciné. Voilà, qui a tous les vaccins, toutes les garanties sanitaires. Aujourd'hui, c'est tarif, nous, poussin en race pure. Voilà, on fait que des races pures de toute façon aujourd'hui.
Okay. Alors, une dernière salve de questions pour l'instant qui demande des précisions par rapport aux conditions d'élevage au centre. Est-ce
Oui.
qu'il y a un accès à un parcours? Est-ce qu'elles sont toutes en cage? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, nous, aujourd'hui, accès extérieur, ça nous est interdit. C'est-à-dire que soit notre vétérinaire, la DDPP, c'est barré d'une croix rouge. Pour des questions sanitaires, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour rentrer dans un bâtiment, on prend une douche, on change de vêtements pour vraiment limiter tout risque de contamination. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que nos animaux puissent sortir à l'extérieur, sanitaire. clairement, c'est un risque qui serait trop grand. Et voilà, une salmonelle est arrivée. Si c'est pour abattre un bâtiment où il y a la diversité sur 10, 12 ou races, voilà, l'enjeu est trop, comment, est trop important. Ensuite, nous, la plupart des animaux sont élevés au sol, donc dans des bâtiments au sol. Il n'y a que les troupeaux pédigrés, on va dire entre 17 et 50 semaines, qui sont en cage. Donc là, voilà, après tous nos troupeaux poussins à multiplication sont au sol. Mais là, aujourd'hui, on est bien conscient que de toute façon, l'élevage de poules en cage est un sujet qu'il faut qu'on traite. Le problème ensuite pour faire la sélection et d'avoir du suivi individuel des animaux, soit il faut vraiment des bâtiments ultra modernes connectés pour savoir quelle poule a pondu tel œuf si on veut du suivi de performance individuelle. Sinon, c'est difficile. Et les investissements pour ce genre de bâtiment, on dépasse le million d'euros. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens d'investir dans ce genre de bâtiment. On sait que c'est cette fragilité, enfin une fragilité ou un enjeu plutôt, mais aujourd'hui, enfin, on n'a pas d'autre solution que celle-là.
Et comme vous gardez les animaux à l'intérieur au centre, comment est-ce que vous réussissez à vous assurer de la rusticité des souches que vous sortez?
Eh bien, ça, c'est le retour avec les éleveurs avec qui on travaille. Voilà, c'est le. Bah voilà, c'est tout le retour, on va dire, d'expérience terrain. Alors, quand c'est les associations, les clubs avec qui on travaille, bah, on a des échanges réguliers avec eux, donc le retour est assez facile. Et puis, on a quand même un certain nombre d'éleveurs qui nous prennent des races différentes et voilà, qui nous en prennent tous les ans. Donc, c'est des retours avec eux, quoi.
Merci. Je sais, si Charline est encore connectée, j'aurais une question par rapport à l'élevage de reproducteurs. Est-ce que tu peux nous confirmer que toi, et ça ne sera pas la première fois que deux DDPP affirment des choses différentes, toi, on ne t'empêche pas d'élever tes reproducteurs sur parcours?
Non, pour l'instant, il n'y a personne qui est venu me faire une visite. J'ai pas eu de retour par rapport à ça, donc j'espère que ça va jamais arriver, mais voilà. Pour
Après,
l'instant,
là, si je peux me permettre,
autre chose à faire.
on est sur deux choses différentes entre multiplication et sélection. C'est-à-dire que la multiplication, aujourd'hui, on peut avoir un troupeau extérieur, effectivement, ça ne pose pas de problème. Nous, la question est plus dans la sélection. Et aujourd'hui, c'est vraiment les animaux pédigrés. Et du coup, tout l'environnement qui est autour qui doit être ultra protégé. Et donc après, nous, comme on est sur le même site avec nos troupeaux de multiplication, obligatoirement, ils doivent suivre les contraintes du plus contraignant, on va dire. Mais c'est les troupeaux de sélection qui guident tout ça, en fait.
D'accord, ok. Donc selon les DDPP, sélection, pas dehors, multiplication, dehors possible s'il n'y a pas de troupeau de sélection juste à côté. Une question supplémentaire sur la sélection. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la non-consanguinité quand on fait notre propre renouvellement de volaille? Est-ce qu'on est obligé de racheter des couples et si on en rachète chez vous, n'aurons pas nous aussi des problèmes de consanguinité?
Eh ben, en fait, la consanguinité, effectivement, elle se gère en connaissant les pédigrés de chaque animal. Donc, c'est-à-dire, voilà, nous, voilà, je donnais l'exemple de la race que j'avais tout à l'heure, qui on a depuis 2010. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quelle poule de sélection aujourd'hui, on est capable de donner son arrière-arrière-grand-parent d'il y a 20 ans. Et on sait quel croisement a eu lieu avec quelle poule, etc. Donc en fait, pour gérer la consanguinité, la seule solution est de comment et ben de et de gérer les croisements pour diluer tous les ans et maîtriser tous les ans cette consanguinité. S'il n'y a pas ce suivi individuel, effectivement, très vite, la reproduction va se faire de manière mélangée. Et en fait, il y a tellement de possibilités de croisement entre les poules et les coqs qu'au final, voilà, si on ne tue pas individuellement, ce n'est pas maîtrisé. Et le suivi individuel nécessite aussi, enfin, alors, pas vraiment l'insémination artificielle, mais c'est-à-dire que nous, avant de faire nos inséminations de renouvellement intégrée, on a 3 semaines pendant lesquelles on est sûr que la poule n'a pas été inséminée par quelconque que ce soit. Pour être sûr que ce soit uniquement la semence de telle coque identifiée qu'il la féconde. Et ça veut dire derrière de faire d'un ramassage des œufs individuels par poule, noté par poule, des éclosions où on sépare chaque poule, les œufs de chaque poule, et que les poussins soient identifiés dès l'éclosion, bagués dès l'éclosion, qu'il n'y ait pas de rupture dans la traçabilité. Donc la gestion justement de la consanguinité est vraiment un travail de fourmi parce que voilà, vous échangez 2 œufs, tout de suite la rupture dans la traçabilité des animaux est faite. Donc on n'a pas le choix, enfin voilà, du début à la fin, on est obligé d'avoir une gestion de traçabilité très précise et surtout suivi individuel des animaux et reproduction maîtrisée et connaissance de l'historique. Parce que voilà, il faut savoir tous les croisements qui ont été faits dans l'historique pour pouvoir être sûr que celui qu'on va faire demain soit ne casse pas tout ce qui a été fait avant, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je
Bah,
dis ou
vous
non, enfin,
pourrez peut-être éclaircir avec la question qui suit là. Pourquoi ne pas mélanger deux races type pondeuse pour en faire une autre pondeuse avec plus de diversité génétique? Pareil pour les poules de chair.
alors, c'est tout à fait possible de mélanger deux races. Aujourd'hui, on fait d'ailleurs, nous, un mélange qui s'appelle, enfin, entre la Sukona, donc la Sukona qui est la race qu'on a créée sur le centre et qui est en fait un mélange de deux races pondeuses, une race rustique ancienne, type, enfin, plutôt avec des beaux taux de ponte, et une race plus industrielle de ponte. Donc ça, des mélanges, effectivement, ça peut se faire. Aujourd'hui, on mélange enfin, notre race ponte avec une coucou de renne. Voilà, des mélanges, ça peut se faire comme ça. Après, et effectivement, des possibilités de mélange avec les poules, vu la diversité génétique qu'il y a, sont infinies. Là, le problème ou la difficulté, c'est quand on crée une nouvelle souche, un nouveau croisement, une nouvelle race, ça veut dire qu'il faut enclencher, gérer comme une nouvelle race, avec tout le suivi qu'il y a derrière, le travail génétique qu'il y a derrière. Et donc, tout ce travail. Là, et toute nouvelle création de race est un coût supplémentaire. Donc nous, on n'a pas des moyens très très étendus non plus, donc on ne peut pas créer comment, de manière infinie, une souche qu'on stabilise et pour commercialiser demain. Par contre, aujourd'hui, on dit, moi, je voudrais un croisement entre, je ne sais pas, la gournée et la coucou de renne, j'en sais rien. Nous, on peut très bien faire des inséminations ou des croisements entre ces deux poules-là et produire des poussins qui sont directement issus de ce croisement-là. Mais après, la démarche de stabiliser une nouvelle race ou un nouveau croisement est une démarche, voilà, qui prend plusieurs années, qui nécessite, voilà, un suivi d'un troupeau, etc. Donc après, la diversité génétique, aujourd'hui, si vous voulez, moi je considère qu'on a, d'une certaine manière, un coffre-fort ici dans lequel on garde un peu la source de la génétique, et avec cette source, on peut faire tout ce qu'on veut. Ensuite, effectivement, n'importe qui peut faire tous les mélanges, les croisements qu'il veut, créer des nouvelles races, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais en fait, si on n'a pas gardé, protégé cette base génétique, on ne pourra pas faire le reste après. Et aujourd'hui, si vous voulez, la position des juges de la Fédération française pas de la culture, mais de la volaille qui gère justement donc c'est des amateurs, hein, qui gèrent justement la gestion des races, les standards de races, etc. Et plus dans une logique de dire on limite ou on freine l'homologation de nouvelles races de poules, de poules locales ou anciennes, qu'on peut dire, parce qu'aujourd'hui il y a déjà tellement un enjeu de conserver toutes les races existantes qu'en créer une nouvelle, si c'est pour mettre une nouvelle race en risque de disparition, voilà, qui en plus sera issu d'un croisement de races anciennes. Donc aujourd'hui, voilà, la position est de dire il faut déjà protéger l'existant avant de partir sur des nouvelles races. Mais un croisement peut se faire n'importe quand sans aucun problème.
Merci pour ces précisions. Et une dernière question avant de passer à l'intervenant suivant. Comment les épisodes de grippe aviaire influencent votre travail de sélection?
Alors, nous la grippe aviaire fait que la route qui traverse le centre est fermée. Ça, c'est bon, c'est le premier point. En soi, comment? Il n'y a pas d'influence dans le sens où, au niveau de la biosécurité, que ce soit hiver comme été, risque négligeable ou risque élevé, on est dans le même niveau très élevé de biosécurité. C'est-à-dire qu'un véhicule qui rentre sur le site, été comme hiver, il est désinfecté. La douche à l'entrée d'un bâtiment, été comme hiver, elle est prise. Donc en fait, nous, on cherche. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on est en train d'acheter quatre véhicules, enfin, des vieilles voitures, on va dire à bout de souffle, mais pour éviter qu'un véhicule extérieur ne rentre sur le site. Donc en fait, on est toujours, nous, en phase d'augmenter notre niveau de biosécurité. Et vu que les animaux sortent pas, enfin, sur les nouveaux bâtiments, on a mis les filtres les plus performants qui existent. En fait, on veut être, que ce soit élevé ou pas élevé, on veut être au niveau maximum, en sachant que la grippe aviaire est un risque, mais un risque qu'on peut pas forcément maîtriser. C'est-à-dire que s'il y a un virus qui arrive, qui rentre par un filtre, aujourd'hui, il n'y a aucun filtre qui empêche de passer une grippe aviaire dans un bâtiment. Donc, il y a un moment où on peut faire ce qu'on veut sur la grippe aviaire. Si elle tombe, elle tombe. Par contre, on a la gestion des mycoplasmes, des salmonelles, etc. Tout ça, on a vraiment un moyen d'action. Et ça, c'est des pathogènes qu'on peut avoir sous les chaussures, sous les garde-boue des voitures, etc. Donc, et qui peuvent avoir un impact, puisque voilà, une analyse positive, c'est un bâtiment qui a battu. Et des analyses, on en fait toutes les 3 semaines sur les bâtiments. Donc, nous, on a vraiment ces enjeux-là. Donc, en fait, on est au niveau toujours le maximum. Et donc, on soit risqué élevé ou pas de grippe aviaire, nous, on a le même niveau de
Ok,
biosécurité sur.
ça c'était effectivement l'impact de la grippe aviaire sur la biosécurité dans votre travail, mais est-ce que il y a aussi un impact sur les critères de sélection?
Aujourd'hui, nous, on n'a pas eu la demande de travailler sur des critères de sélection par rapport à ça. En sachant que, dans tous les cas, nous, on n'est pas équipé pour travailler avec virus, injecter des virus. Il faudrait que ce soit vraiment fait dans un cadre extérieur au centre, s'il y a la manipulation de ces éléments pathogènes-là. Voilà, nous, enfin, et puis il faut que ça se fasse dans un cadre vraiment très très protégé. Nous, enfin, on serait tout à fait ouvert de faire ça, parce que je pense que justement la diversité, les ressources génétiques des races rustiques, à mon sens, ont tout leur avenir par rapport justement à l'enjeu sanitaire de demain, d'avoir des animaux qui ont un potentiel de résistance beaucoup plus élevé que des poules hybrides ou très très sélectionnées. Mais voilà, enfin, là encore, c'est aussi un travail qui demande des moyens, et notamment des moyens financiers qu'on n'a pas non plus nous aujourd'hui.
Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et pour toutes ces réponses aux questions. Est-ce que Antoine, tu es connecté? Antoine de
Ouais,
Corrèze.
je suis là.
Super. Eh ben, écoute,
Tu
Antoine, je te laisse la parole pour te présenter ta ferme et ton activité.
Ça marche. Du coup, bonjour, je vais faire une petite présentation de la ferme d'abord. Donc, je suis installé en Corrèze depuis 2013. Je suis installé hors cadre. Donc, j'ai pas eu les aides et tout, parce qu'on n'était pas trop d'accord avec le gars qui faisait de la volaille à la chambre de mon département. Ça, j'ai repris la ferme de mon grand-père. Il était en vache, mais du coup, à l'époque, lui, il avait 20 vaches. Donc, moi, faire des vaches sur la même surface, c'est pas possible. Donc, j'ai pris des poulets parce que chez moi, il y a toujours eu une basse-cour. J'ai toujours vu des poussins et des poulets en couveuse. Donc, ça m'a pas paru dément de faire ça. Donc, en fait, j'aimais pas les poulets, j'aimais pas les couenus roux. Donc, je suis parti en race rustique directement, en prenant des marrons blanches, des poussins d'un jour marrons blanches, et en prenant une couveuse pour faire de la repos. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, jusqu'à ce que le renard passe et me rafle tout. Et donc là, j'avais envie d'essayer autre chose, donc j'ai fait appel en faisant quelques recherches, j'ai trouvé le couvoir de Béchan, justement. Et du coup, j'avais essayé la gauloise blanche et la quenouille du Forez.
qui font du coup. Et je trouvais que la gouloise blanche avait meilleure conformité à s'adapter de chez moi. Donc j'ai travaillé quelques années avec le couvreur de Béchan jusqu'au moment où le prix des poussins a vraiment beaucoup augmenté. Et comme je suis dans une. En Corrèze, je sais pas si vous connaissez un peu la Corrèze, mais je suis un peu isolé en Corrèze. On n'a pas des revenus non plus très hauts, donc je ne peux pas augmenter trop les prix des poulets, c'est pas possible. Donc pour pas répercuter les prix des poulets, j'ai choisi de faire l'art pro à la maison, puisque c'est un truc que je. L'art pro, ça va, quoi, je maîtrise assez bien. Donc j'ai racheté une couveuse et un éclosoir. Et j'ai fait l'art pro à la maison avec de la gouloise blanche, du coup. Et voilà. Et j'ai affiné un peu le truc avec après une formation avec Raoul Jacquin, il y a 2 ans, où j'ai affiné un peu le truc. Et en fait, grosso modo, j'ai un parquet de 18 poules pour 4 coques. Alors bon, normalement, il faudrait que j'ai 2 parquets. Avec une dizaine de poules et de coqs chacun. Mais bon, pour l'instant, c'est pas fait, ça sera fait plus tard. Et du coup, pour donner des chiffres, je pourrais sortir à peu près. Alors, je mets à couver hein, tous les 10-15 jours, ça dépend de mes besoins. Mais en fait, dans le mois, je pourrais sortir à peu près 250 poussins par mois avec ce parquet, quoi. Ce qui n'est pas négligeable. Et c'est suffisant pour ma production. Par contre, comment dire, ça implique une autre organisation. C'est-à-dire que là, je mets à couver tous les 10-15 jours, donc il me faut plus de cabanes ou plus de parcs, quoi. C'est pas une bande par mois, quoi. Bon, après, par contre, du coup, je suis autonome en poussin et ça me réduit le coût quand même du poulet drastiquement, quoi. Voilà. Dire d'autres
Pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat, mais moi j'en ai une pour
ouais
continuer les échanges là sur la biosécurité. Est-ce que tu as déjà eu des déclarations à faire auprès de la DDPP pour déclarer cette
non
activité et quelle biosécurité en
mais je...
particulier?
non parce que je vends pas de poussins, tout reste sur la ferme. Et pour tout te dire, l'éclosoir et la couveuse, comme c'est tout petit, je vais pas créer un couvreur pour ça. Donc en fait, il est dans la maison, ce qui me réduit le coût de l'élec, parce que ça monte quand même à 37 degrés, donc ça chauffe. Donc en fait, la maison est déjà à 20, donc ça fait moins cher que ce soit déjà dans la maison que si c'était à l'extérieur. Voilà. Et oui, je suis en bio.
Okay. Et est-ce que tu as chiffré ton prix de poussin en prenant en compte le coût d'élevage des parentaux?
Non, parce que, mais alors, faut savoir que je fais mon aliment moi-même, ce qui me diminue par deux quand même. Le prix de l'aliment. Donc, j'ai pas fait le coup du pouce. Mais je m'y retrouve parce que bah, je le vois à la fin sur mon chiffre d'affaires, quoi. Je vois bien que c'est comme j'ai acheté les poussins à Béchan. Donc, ils ont quand même pas mal monté. Plus le coût du transport qui n'arrêtait pas d'augmenter tous les ans. Et ben, en fait, ça me coûte quand même moins cher là-bas.
Dans ton système là pour ton autoproduction, est-ce que il y a des obligations de prophylaxie, de vaccination?
Non, il y a aucune obligation de vaccination. C'est juste que après, s'il y a une merde, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais il n'y a pas d'obligation de vaccination et je ne les vaccine pas.
Tiens, tu as 3000 poulets à l'année, est-ce que c'est bien ça?
Ah non, j'en fais moins. Je pourrais être à ce stade, mais j'en fais moins parce que j'ai pas le débouché pour ça et je suis tout seul à la ferme. Donc j'en fais 1 500 à peu près à l'année, 1 500-2 000, quoi.
Ok. Et comment est-ce que... Alors, sur les vaccins, on revient, t'as pas de vaccination coccidiose, ni marek
Non,
d'ailleurs?
je ne fais pas pareil parce que j'ai jamais eu de problème. Tout au long où j'ai fait la couvage, donc sur une dizaine d'années, j'ai jamais eu de problème de marek. Donc, je vois pas l'intérêt de le faire. Après, par contre, si ça arrive, c'est la merde. Mais j'en ai jamais eu. Donc, voilà.
Et
La gestion de la consanguinité, eh
Ouais.
ben, c'est simple. Comme je me fais bouffer régulièrement mes reproducteurs par les renards, ça serait tout seul la consanguinité. Mais. En fait, il faudrait que je fasse une vraie. J'ai pas le temps de le faire, mais il faudrait faire une vraie sélection avec des nitrates, avec la notation, comme disait Monsieur Jeannot. Il faut faire des travaux, il faut faire un suivi individuel des poules, il faut les baguer, faut... ça c'est clair. On pourrait le faire. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème sur les troupeaux. J'ai pas de diminution de performance. Mais à terme, il faudrait que je le fasse. Ouais.
Est-ce que tu fais rentrer de temps en temps des reproducteurs ou tu te les
Non.
auto-renouvelles
Non, je fais jamais
toi-même?
rentrer de producteur.
Peut-être maintenant, si une autre question arrive, moi j'en ai une, la même que pour Charline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais trouvé particulièrement compliqué dans la mise en place de tout ça ou à l'inverse, quelque chose de particulièrement facile?
Non, à part que c'est du travail. Mais comme je dis, moi j'ai toujours vu ça, et puis c'est à petite échelle. J'ai un découvreur de 500 œufs. J'ai un éclosoir pareil. C'est pas, j'en mets 120 ou 200 tous les 10 jours de l'an. Voilà, c'est du temps, mais c'est pas difficile. Mais c'est aussi parce que pour moi c'était, j'ai toujours vu ça, donc ça m'a jamais paru compliqué, quoi. C'est de l'astreinte, c'est du suivi. Mais c'est pas compliqué. À faire des poussins, c'est pas compliqué. S'il y a une bonne couveuse et si les parents sont fertiles et ont un bon taux d'éclosion là-bas. Parce qu'il faut faire attention, il y a des races rustiques qui ont des mauvais taux d'éclosion. Ça, c'est pas forcément de la faute de la couveuse ou de l'éclosoir. Ça peut être dû à la sélection de la race qui est sélectionnée en général sur du phénotype et pas sur de la. Et pas sur du. Pas sur la. Des performances, quoi. C'est aussi, ça joue, quoi. Mes poussins par éclosion, j'en ai à peu près. J'ai 90% en moyenne de taux de réussite sur l'éclosion. Et reproducteur, j'ai 18 poules et 4 coqs sur un parc dehors.
Je sais pas si tu as répondu à celle-là. Si t'as pas de suivi précis pour la sélection, là, tu disais
Non, c'est
t'as
ce
pas
que
de
je disais. Non, c'est
ouais.
ce que je disais, pour l'instant, j'en ai pas.
Tu fais pas du tout de sélection
Non, il
au
faudrait, mais
feeling ou quoi? Non.
si je fais de la sélection au niveau de la. Alors moi je fais du poulet de chair, donc je fais du sélection sur la prise de masse. Donc en fait, je sélectionne les plus beaux. Alors j'élève, je reprends dans mes parcs de multiplication, enfin dans mes parcs que je vais amener à être à tuer pour vendre. Je prends mes plus beaux coqs et mes plus belles poules, sachant qu'après, il faut aussi faire attention au taux de ponte qui baisse pas trop. Donc c'est ça le. Mais par contre, je sélectionne pas sur le phénotype. Je m'en fous qu'elles soient toutes blanches ou qu'elles soient un peu tachées ou qu'elles soient noires ou voilà, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût des poulets et la conformité et puis la rusticité, quoi. Et que si elles développent bien dans mon environnement, bah, c'est que avec mon aliment, parce que du coup c'est moi qui fais mon aliment, et bah, ça veut dire qu'elles sont bien adaptées comment dire, mon élevage, et du coup je garde celle-ci. Non, j'ai pas un ton, je, bah, tu peux le calculer, le taux de ponte, c'est, j'ai en moyenne 12 œufs, entre 12 et 15 œufs par jour sur 17-18 poules pendant un an à peu près. Je les change tous les ans et je les change en début d'hiver parce que du coup je prends des poulettes qui rentrent en ponte en début d'hiver, ce qui fait qu'elles ont un bon taux de ponte pendant l'hiver et ça baisse pas pendant l'hiver. Et oui.
Ok.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
Je crois que oui, pour l'instant. Si il n'y a pas d'autres questions en particulier pour Antoine, là, je vous propose peut-être qu'on en discute de manière un peu plus informelle, quoi. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez parler, etc. On a un autre webinaire qui est prévu. On n'a pas encore calé d'intervenant ou d'intervenante en particulier. On a des idées, mais voilà. Vous voudriez qu'on. Donc on creuse plutôt quel. Là, on a vu trois types de systèmes très différents, hein, de Béchan à chez Antoine en passant par chez Charline, donc d'un quelque chose de professionnel bon, c'est petite échelle pour de la sélection, mais qui paraît grande échelle pour du point de vue d'une ferme paysanne, jusqu'à l'échelle de la ferme paysanne en passant par quelqu'un qui fournit des paysannes et paysans. Voilà, sur ce gradient-là, où est-ce que vous voulez qu'on aille creuser davantage pour notre deuxième rendez-vous? Ouais, Pétane.
Ma question, c'est là, pour le coup, les deux coureurs paysans, ils font ça pour du poulet de chair. Est-ce qu'il y en a qui font ça pour de la pondeuse? Et si oui, que font-ils des mâles? Et où est-ce que c'est des races mixtes où on pourrait utiliser et les mâles et les femelles? Bon, c'est ma question.
Ok, donc vraiment besoin plutôt d'aller explorer sur les pondeuses.
Plutôt, enfin, les deux, mais là, pour le coup, les deux sont intéressants, mais je n'ai pas d'exemple en tête de quelqu'un qui fait ça en deux.
Peut-être, est-ce que Brigitte, tu peux nous informer sur ce qui a été dit lors du webinaire que vous aviez organisé dans le réseau FNAB? Est-ce qu'il y avait des informations, des expériences sur les pondeuses? Ouais, si.
Il y a Guillaume qui est présent aussi, peut-être qu'il peut renseigner davantage parce que c'est pas moi qui ai été en direct avec les producteurs. C'est des producteurs qui testaient la sélection. Je sais pas, Guillaume, si tu veux en dire un mot.
Sur la ponte, j'essaye de me remémorer parce que c'est plus très frais là,
Il
qui on avait
y
eu.
avait la ferme des copains. C'est
Oui,
de la ponte mixte.
qui font de la ponte, mais du coup, enfin, c'était un peu un témoignage aussi d'une ferme qui sont un peu revenus sur leur envie initiale de faire de la sélection et de la repro. Après, il y avait un gars dans le Massif Central, je crois.
Dans le 63, ouais,
Très cher.
ils ont déployé. Donc, eux, c'était Cousnou du Forêt et Gournay. Donc, là, c'était l'ensemble, quoi. Volaille de chair, œuf. On
Est-ce
t'entend pas bien, Guillaume.
que tu as sous les yeux le dernier témoignage qu'on avait? Parce que j'arrive plus trop à me souvenir.
Oui, bah on avait aussi Cédric, donc c'était pour l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la poule
Ah
noire
oui.
de Chalon. Donc là, on était bien
Pareil, du poulet de chair.
sur la pondeuse. Pondeuse aussi?
Non.
Ah non,
Poulet de chair.
chair, pardon. Pardon.
Ouais. Et donc eux, ils faisaient la sélection avec un programme européen de l'INRA, enfin porté par l'INRA quoi. Ils étaient accompagnés pour ça en fait.
Oui.
Oui, pardon, c'est un programme qui vient de démarrer effectivement pour faire de la sélection. Sans passer par un organisme de sélection. En fait, si vous voulez, parce que nous, on est dans ce programme aussi avec l'INRA pour faire ça. En fait, c'est la logique de dire les races qui sont pas. De faire un premier niveau, si vous voulez, de conservation avant d'avoir une conservation pédigrée comme on peut faire nous à Béchan. C'est-à-dire, si une race n'est pas sélectionnée en pédigré, qu'il y ait au moins un premier niveau de suivi de sélection. Donc, le programme, il s'appelle Résigène, en fait. Et voilà, ouais, il est dans cette. Dans cette logique-là, de dire il faut faire le maximum, même pour les races qui ne sont pas sélectionnées en pédigré avec un suivi vraiment précis du CISAF.
Merci. D'autres souhaits de prise de parole sur les besoins? Ouais, Pierre, vas-y.
Bonjour, donc Pierre Agribiodrome. Ma question, elle est plutôt pour Charline. Dans le quart sud-est et Corse, on connaît encore des soucis d'approvisionnement en poussine. Tu serais prête à commercialiser des œufs à éclore Nous, ça nous permettrait à nos adhérents de sécuriser les appros et également limiter les transports d'animaux de poussins vivants. Donc, c'est intéressant. Quels sont les équipements et les besoins de connaissances techniques des élevages pour éclore à la ferme, voilà, pour faire naître les poussines un jour?
Alors, ça serait pour faire éclore du coup des œufs qui sont qui n'ont pas commencé à être incubés ou des œufs qui vont être prêts à éclore?
Avec l'or, je pense que oui.
Ok. Bah alors ça, voilà, partie ce côté-là, j'ai juste vu une formation sur l'éclosion à la ferme. Après, pour le transport, là, c'est la bonne question parce qu'il faut trouver le transporteur qui livre des œufs avec une température de au moins 35 dans le camion. Donc pour des tout petits volumes, ça risque, en termes de tarification de livraison, ça risque de faire exploser un peu le tarif.
Pardon, enfin pour faire ça, en fait, vous pouvez passer par Colissimo, parce que nous, on fait de l'envoi d'œufs à couver régulièrement aussi, par Colissimo. Et en fait, il ne faut pas qu'il soit justement à 30 degrés, parce qu'il ne faut pas que l'incubation démarre dans le transport. Donc, il faut qu'il soit dans une température, on va dire, de stockage, on va dire, si possible, à moins de 22 degrés. L'incubation, elle commence une fois que l'œuf arrive chez le client qui le met en incubation. Mais il ne faut surtout pas que l'incubation démarre avant.
Il y avait deux choses qui se proposent, c'est pour ça qu'en fait, il y a vendre des œufs fécondés qui n'ont pas commencé. Là, c'est l'idéal parce que justement, c'est plus facile à transporter, donc avec une température inférieure à 20 degrés. Et après, je sais qu'il y a des éleveurs qui réfléchissent aussi pour faire éclore à la ferme. Donc, c'est des œufs qui ont 19 jours d'incubation qui sont livrés chez les éleveurs. Et ils montent leur bâtiment à température à plus de 35 degrés. Et du coup, l'éclosion se passe dans le bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il y a deux choses qui existent. Mais c'est vrai que pour les transports, pour des petits volumes, et puis comme un peu loin, l'idéal, ce serait de partir sur des œufs qui sont pas qui n'ont pas commencé à être incubés, oui.
Ok, et du coup, il faudrait deux équipements, quoi, un incubateur et un dispositif d'éclosion par élevage.
Ça dépend de la fréquence. Une seule machine peut suffire si c'est des tout petits volumes et si vous faites éclore, par exemple, qu'une fois tous les, je sais pas, deux fois par mois, enfin, une fois tous les 2 mois, par exemple. Parce que là, du coup, vous avez besoin que d'une machine parce que vous augmentez juste l'hygrométrie au moment où vous voulez les faire éclore et le retournement, vous l'arrêtez. Et après, si vous faites quelque chose de plus régulier, là, l'idéal, oui, c'est d'avoir deux machines. Une qui fait l'incubation et une l'éclosion.
Ok.
Ou repartir sur l'éclosion en bâtiment, non, Charline? L'éclosion en bâtiment, peut-être, pour éviter l'achat de la machine.
Mais après, c'est là, c'est le coût. Je connais que des. J'ai juste visité un élevage qui le faisait, mais c'est vraiment un gros éleveur. Et il a carrément des tapis roulants qui montent à hauteur en haut du bâtiment pour avoir le point de chauffe le plus haut possible. Sur des petits élevages, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Et après, c'est en termes de transport, là, c'est quand même plus risqué, quoi. Il faut que le transporteur soit vraiment à
Et si
température.
s'ils font la couvage sur la ferme, après, au lieu d'avoir une autre machine pour l'éclosion, ils peuvent faire éclore dans leur bâtiment. Ce qui économise l'achat d'une machine.
Après, pour le coup, il faut calculer par rapport en termes de chauffage du bâtiment. Parce que comme le prix de l'électricité et du gaz est quand même assez élevé, parce qu'il faut avoir une température qui est supérieure à 35 degrés dans le bâtiment. Donc,
Nous, ici, ça marche bien. On a une petite, mais on est sur des petits volumes. Du coup, on a un bâtiment qu'on met dans le bâtiment. C'est une toute
Ok.
petite poussinière. Et du coup, c'est super pratique. Ça permet de réduire la taille du bâtiment pratiquement sur les 2, 3 premières semaines.
Ok. Bah, du coup, dans ces cas-là, je pense que c'est possible. Ouais.
Merci.
De rien.
Là, Charline, notre question. T'as à la louche un prix des œufs fécondés?
Alors, j'ai pas fait le coût exact, mais là, je suis en démarchage pour trouver des œufs fécondés auprès de sélectionneurs. Faut compter 45 centimes l'œuf.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole? Sinon, ce que je vous propose, donc il va y avoir un enregistrement qu'on va on va vous envoyer le lien de l'enregistrement. Il n'y aura pas de compte-rendu écrit. Ce sera le visionnage de la vidéo ou l'écoute de l'audio. Pour le webinaire suivant, on va continuer dans notre lignée en essayant de s'orienter, enfin en tout cas d'avoir au moins une ou deux expériences sur les pondeuses et peut-être aussi ouvrir à ces expériences qui concernent en particulier l'éclosion, etc. Voir en fait la diversité des systèmes sans avoir à reprendre à reprendre en main tout juste depuis la sélection jusqu'à l'élevage, mais voilà les différentes étapes. Qui consiste une forme de reprise en main partielle ou totale en fonction des possibilités et des envies de chacun et chacune. Si ça vous va, on s'arrête ici. Et puis, bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup Antoine, Charline et Édouard.
Avec
Et
plaisir.
à
Merci à
une
vous.
prochaine fois alors.
Au revoir.
Merci
Merci
à tous, au revoir.
beaucoup.
Merci, au revoir.